Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Cette histoire unique débute à Marseille au mois de mars et avril 1981. Notez bien la date, c'est important, on est à un mois de l'élection de François Mitterrand, premier président socialiste de la Ve République. Et ça, je vous le dis d'emblée, parce que la politique va beaucoup compter dans le destin de cette affaire, trop compter, vous allez voir. Donc en mars et avril 1981, dans le 8e et 9e arrondissement de Marseille, plusieurs femmes sont victimes d'agressions sexuelles, selon un mode opératoire qui fait dire assez vite que c'est le même homme. Dans la nuit du 1er avril, Sylviane rentre chez elle, seule. Il est 2h du matin. Elle se gare, elle coupe le contact, mais elle n'a pas le temps de descendre de voiture. Un homme monte côté passager. « Je vous préviens, je suis armé et je sors de prison. Démarrez !» Sylviane redémarre et roule. Il la fait quitter les routes principales jusqu'à un chemin de terre qui mène à la calanque de Morgiou. Et là, il la fait stopper dans un terrain vague. Il abaisse le siège et il la viole. Et après c'est très bizarre. 99% des violeurs seraient partis en courant, penauds, honteux. Pas lui. Il lui ordonne de reprendre le volant et de retourner jusqu'à chez elle. Et là, il la quitte. Une fois qu'elle est garée. Quand le lendemain matin, Sylviane va porter plainte, les policiers lui disent « Vous n'êtes pas la première, vous savez. Il y en a eu d'autres. » Et Sylviane s'aperçoit qu'elle est la 9e à porter plainte et que les 8 précédentes victimes ont raconté une histoire très proche. À chaque fois, c'était des femmes seules. À chaque fois, il les a amenées à la calanque de Morgiou. À chaque fois, il les a violées et raccompagnées chez elles. Et toutes, y compris Sylviane d'ailleurs, raconte un détail. Quand il est parti, il a dû aller à sa voiture. En tout cas, j'ai entendu un moteur démarrer. C'était comme un moteur de 2 chevaux, vous voyez ? Et d'ailleurs, le type récidive dès le lendemain, dans les quartiers sud de Marseille. Au total, début avril, les policiers marseillais dénombrent 17 agressions sexuelles qu'ils attribuent au même homme. Viol, tentative de viol et attentat à la pudeur. Et le type est imprudent, il agit à visage découvert. Donc, les victimes sont capables de le décrire. Et toutes ensemble, les 17, elles dessinent un portrait robot très précis. Il est brun, il a entre 20 et 25 ans, de type méditerranéen, il mesure 1m70, il est toujours habillé d'un jean, de baskets blanches et d'une parka. Le 12 avril, aux alentours de 23h30, sur le boulevard du Prado, à Marseille, une patrouille de police aperçoit un homme qui ressemble au portrait robot. Et qui, en plus, a une drôle d'attitude. On dirait qu'il guette quelque chose ou quelqu'un.
Bonsoir, monsieur. Contrôle d'identité.
Bonsoir. Mes papiers sont dans ma voiture.
Mais très bien, on va vous accompagner jusqu'à votre voiture.
Je ne suis pas garé loin, venez. Et il s'avère que la voiture de ce monsieur est une 2 chevaux. Il l'ouvre, il tend ses papiers au policier, il est étudiant en éducation physique, il a 22 ans et il s'appelle Luc Tangor. Les policiers fouillent sa 2 chevaux et emballé dans une feuille de papier journal, ils trouvent un couteau de cuisine. Donc, ce type ressemble absolument au portrait robot. Il a un couteau et 1 2 chevaux. Et pour ces 3 raisons, Luc Tangor est immédiatement placé en garde à vue. Et le lendemain matin, les policiers font ce qu'on appelle un tapissage. Ils mettent Tangor au milieu de collègues, derrière une vitre sans teint, et ils font venir les 17 victimes, une par une. Beaucoup le reconnaissent, mais pas toutes. Le soir même, Tangor est inculpé de viol et écroué à la prison des Baumettes. Et les flics perquisitionnent son petit studio sous la corniche. Et là, ils tombent sur une parka tachée de graisse, qui ressemble à la parka décrite par plusieurs des victimes. Et sur un revolver factice, sur lequel il y a
des traces de terre. Et ça aussi, ça colle. Une des victimes a raconté que pour la violer, l'homme a déposé son arme dans la terre. On compare cette terre à celle qui recouvre le chemin de Morgiou. Eh ben, c'est la même. Texture, couleur, au microscope, tout coïncide. Et c'est d'autant plus déterminant que la terre de Morgiou a une particularité. Elle a un très fort taux de bagnium. Quant aux taches de graisse sur la parka, c'est pas de la graisse, c'est de la vaseline. Et ça, je ne vous l'ai pas encore dit, mais les viols ont eu lieu à la vaseline. Ça fait beaucoup d'éléments contre Tangor, non? Il ressemble au portrait robot, une partie des victimes l'a reconnu, il a une deux chevaux, un couteau et un pistolet, sur lequel on retrouve de la terre qui est la même que celle de la calanque de Morgiou. Et il possède une parka que toutes les victimes ont décrite, tachée de vaseline, produit que le violeur utilise. Et pourtant, lui, il nie. Il nie absolument. J'ai juste le malheur de ressembler à votre portrait robot, voilà tout. C'est ça mon problème. Et au Beaumet, les mois passent, et il commence à s'agiter, et il se lance dans une grève de la faim. Et petit à petit, une sorte de réseau se tisse autour de lui. Des gens qui le soutiennent. D'abord sa famille, puis ses amis, puis ses professeurs à la fac, et puis, et ça va être déterminant, une amie de la famille qui est chercheuse au CNRS et qui s'appelle Gisèle Tichenet. C'est elle qui prend la tête de son comité de soutien. Et elle a fait la liste de tout ce qui l'a convaincu de l'innocence de Luc Tangor. En commençant par cette séance de tapissage au commissariat. Des victimes ont reconnu Tangor parmi des policiers. Mais il était le seul à avoir 20 ans. Tous les autres étaient plus âgés. Et il était aussi le seul à avoir des baskets blanches qu'ont décrites la plupart des victimes. Et il n'y a pas que ça. La deux chevaux, il l'a acheté 3 mois avant de se faire arrêter. Or, on lui reproche des faits beaucoup plus anciens. Et à cette époque, il n'avait pas de deux chevaux. Et il y a encore mieux que ça. Dans la nuit du 1er avril 1981, quand Sylviane a été violée, Tangor était à l'hôpital, une grosse crise d'allergie. « Vérifiez !» dit son avocate. « On vérifie. » Personne ne s'en souvient. Mais bon, dans ce dossier, c'est vrai, il y a des doutes et Gisèle Tichenet, la chercheuse au CNRS, parvient à rallier à sa cause toute une liste de célébrités. L'historien Pierre Vidal-Naquet est le premier, mais c'est pas le plus connu. Mais derrière, on voit arriver des hommes politiques, Dominique Baudis, Alain Perfitte, Jean-Claude Gaudin, et puis des écrivaines stars, François Sagan, Marguerite Duras, et même le petit-fils du capitaine Dreyfus. Depuis sa prison, Tangor leur écrit beaucoup. Il les remercie et il leur donne des arguments. Tiens, par exemple, le pistolet qu'on a retrouvé chez lui. Son embout est rouge. Est-ce qu'une victime a mentionné que le bout du pistolet était rouge? Non? C'est pas bizarre, ça? À son procès en mai 1983, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, Tangor se bat comme un chien, pied à pied, point par point, calmement, méthodiquement. Et il est assez convaincant. Même les avocats des plaignantes en sont déstabilisés. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question à l'audience, « Est-ce que vous le reconnaissez ?» Elles ne sont que 4 sur 17 à répondre oui. Et étrangement d'ailleurs, ce sont celles qui ont fait l'objet de tentatives de viol, pas celles qui ont été violées et qui ont passé plus de 2 heures avec lui. Est-ce que c'est lui ? Elles ne sont pas catégoriques. Et c'est pain béni pour la défense de Tangor. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le couteau, il y a le revolver et tout le reste. Et au final, même si les jurés ne retiennent que 7 agressions sexuelles et 4 viols, Tangor est condamné, il en prend pour 15 ans, et on est en 1983, et il n'y a pas de possibilité d'appel. En théorie, sa peine est définitive, il est cuit. Mais, ce serait faire abstraction de ce qu'est ce garçon. Luc Tangor, c'est un battant. Et pour l'avoir rencontré personnellement et avoir passé des heures avec lui à tourner et retourner son dossier, je peux vous dire une chose. Il est convaincant. Il est séduisant et il est convaincant et il peut démonter en une seconde et demie tous les arguments que vous pourrez lui opposer et qui démontrent qu'il est coupable. Il est très fort. Et c'est ce qu'il fait depuis sa prison avec les journalistes et les gens de son comité de soutien. Il leur retourne le cerveau. Car à peine la peine prononcée, voilà que son comité de soutien réclame une révision et se paye carrément une pleine page dans le journal Le Monde avec l'historien Pierre Vidal-Naquet en tête de gondole. L'agression sexuelle est un crime, l'erreur judiciaire aussi. Vous êtes brun et moustachu, vous mesurez 1m70, vous avez entre 20 et 25 ans, vous portez parfois des jeans et des tennis blanches, alors vous êtes peut-être aussi le violeur des quartiers sud de Marseille et vous pourriez être en prison depuis 3 ans. Et dans la foulée, des journaux aussi différents et opposés que Libération et Le Figaro embrayent « c'est une erreur judiciaire ». Et d'ailleurs, les amis de Tangor ont procédé à une contre-expertise de la terre retrouvée sur le pistolet. Eh ben, c'est pas la même terre que celle de la calanque de Morgiou. Vous voyez bien que c'est une erreur judiciaire. Et la parka, la fameuse parka tachée de vaseline. 3 ans après, le frère de Luc, qui est cuisinier, vient dire « Elle est à moi ?» Et les taches que vous avez trouvées dessus, c'est de ma faute, hein. Je l'accroche dans la cuisine au restaurant, et je travaille près du four. Et comme le four, je le nettoie avec de la vaseline, eh ben, c'est normal, hein, que vous en ayez trouvé sur la parka. C'est une erreur judiciaire, je vous dis. Il faut une révision de ce procès. Ou alors, une grâce présidentielle. Et là, Tangor se met à activer depuis sa cellule les plus mitterrandiens des membres de son comité de soutien, et notamment Marguerite Duras, qui fait passer des messages au château. Première victoire en février 1985. Le garde des Sceaux Robert Badinter dépose un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné. Et je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. Mais la justice est indépendante et la Cour de cassation le rejette. Qu'importe, le comité de soutien ne baisse pas les bras. 2 ans plus tard, en juillet 1987, première victoire. Le président lui accorde une grâce partielle. La peine de Tangor est réduite de 4 ans. Mais ça n'est pas fini. Le comité de soutien harcèle le président et en février 1988... Bingo, le président Mitterrand accorde une grâce à Luc Tangor. Il n'est pas blanchi, mais il est dispensé de finir sa peine et après 7 années derrière les barreaux, Tangor quitte la prison de Muret, près de Toulouse, libre. Et devant lui, une forêt d'appareils photo, de caméras et de micros.
On vient de me rendre la liberté, mais en fait, la liberté... Sans honneur, je crois que ça correspond absolument à rien. Et que, de toute façon, je ne suis pas réellement libre, dans la mesure où je serai en liberté conditionnelle. Et le mot conditionnel veut bien dire ce qu'il veut dire, à savoir que je suis soumis à toutes sortes de contraintes. Et de toute façon, la liberté ne me sera rendue uniquement le jour où la vérité sera rétablie. Et je crois que liberté y aura lorsque mon innocence sera officiellement rétablie et pas avant, parce que ce que je veux, c'est la vérité et rien d'autre. Ce que je compte faire, et ça sera l'unique action des comités de soutien, c'est d'abord la recherche du véritable coupable, qui lui court encore. Ensuite, rechercher toutes les pistes qui pourront nous amener à cette recherche et chercher des éléments nouveaux pour obtenir un second procès. Le second procès est notre unique objectif et nous l'atteindrons.
Et vous savez où Luc Tangor passe sa première soirée de liberté? Chez Marguerite Duras. Carrément, champagne et petit four, avec tous les membres du comité de soutien. Marguerite Duras, ce soir-là, c'est un peu la Zola des temps modernes. Elle a fait sortir de prison Luc Tangor, le nouveau capitaine Dreyfus. Ouais, il a bien raison de sabler le champagne de Marguerite Duras, le jeune Tangor, parce que ça va pas durer. Quand il sort de prison, passé les libations chez Marguerite Duras, Luc Tangor, grâce à ses parents, achète un bureau de tabac dans le centre de Lyon, le Marigny, place Carnot. Et il devient buraliste. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Et maintenant, il veut sa réhabilitation. Il veut que la justice dise qu'il n'a jamais commis les viols pour lesquels il a été condamné. Il veut une révision de son procès. Et en août 1988, il dépose officiellement une demande de révision. Mais deux mois plus tard, patatras.
Le 23 mai dernier, deux touristes américaines avaient été prises en stop à la sortie de Marseille à bord d'une 4L Vert-Pomme. Arrivés près de Nîmes, le conducteur les avait violées avant de les laisser repartir. Pendant plusieurs semaines, les gendarmes ont enquêté parmi les spécialistes de ce type d'agression. Et puis, il y a quelques jours, le juge nîmois chargé du dossier s'est rendu aux États-Unis avec un véritable album de photos. Et c'est ainsi que les deux jeunes victimes ont reconnu leur agresseur, Luc Tangor, 29 ans. Les enquêteurs ont procédé à des vérifications et ont découvert notamment que les parents de Luc Tangor avaient justement une 4L verte. Ce matin, les gendarmes de Nîmes l'ont donc arrêté à Lyon dans le bureau de tabac qu'il exploite depuis sa sortie de prison.
Tangor vient à nouveau d'être arrêté dans une affaire de viol. Une affaire qui remonte au mois de mai, 3 mois après sa sortie de prison. Le week-end de la Pentecôte, en pleine feria de Nîmes. Et voilà ce que les deux victimes, deux autostoppeuses américaines, Jennifer McLunay et Carol Ackerman, racontent aux gendarmes. Elles ont été violées par un homme qui les a embarquées dans une 4L Vert-Pomme. Et elles ont noté toute une foultitude de détails. Les sièges étaient en simili-cuir, le bouton poussoir de la porte avant droite était cassé, il y avait plusieurs vignettes collées sur le pare-brise, la jauge à essence était en panne, et surtout dans le coffre, il y avait des piles de livres, des livres tous identiques. Et elles ne parlent pas français, mais sur la couverture de ces livres tous identiques, elles ont repéré un mot, culpability. Or, Gisèle Tichané, la fameuse chercheuse au CNRS, vient justement de publier un livre sur l'affaire « Coupable à tout prix ». Coupable, culpability. Mais ça finit par convaincre les gendarmes. Et puis, les deux Américaines décrivent parfaitement leur violeur. Petit, brun, cheveux ondulés, la trentaine, il portait un polo Lacoste jaune à manches longues et un jean blanc. C'est précis tout ça. Et pourtant, en garde à vue, on retrouve notre Tangor tel quel. Il est innocent, c'est une machination, on a monté un coup contre lui. Et Gisèle Tichané est toujours là pour le soutenir.
Comme on est sûr que c'est pas lui la première fois, je vois pourquoi il aurait commis des viols depuis sa sortie de prison. Tout rentrer dans l'ordre et recommencer à travailler, et tout est remis à zéro là par ce truc. Donc je suis désespérée, quoi.
Au niveau des preuves, les deux Américaines affirment l'avoir reconnu.
On a arrêté enfin le violeur d'Aix, et avant, on avait arrêté quelqu'un à sa place sur des reconnaissances formelles aussi.
Vous restez convaincu de son innocence passée, de son innocence aujourd'hui.
Oh oui, absolument, oui, il n'y a pas de doute.
Au passage, Tangor change d'avocat. Il embauche le frère de l'historien Pierre Vidal-Naquet, François Vidal-Naquet, qui dans sa première déclaration sur Europe 1 ne semble pas certain de l'innocence de son client.
De deux choses l'une, ou bien nous estimons que Tangor est victime d'une abominable machination et nous continuons à assurer sa défense, ou bien nous estimons que Luc Tangor est coupable, en notre âme et conscience. Et à ce moment-là, nous abandonnons. C'est très facile de prendre Luc Tangor puisqu'il est le coupable idéal.
En clair, vous pensez à une machination policière.
C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. La deuxième hypothèse, c'est que véritablement Luc Tangor est coupable. Et que s'il est coupable là, il était coupable avant, et à ce moment-là, il aura trompé la confiance de tous ceux qui l'ont aidé, dont je fais partie, et à ce moment-là, on n'a plus rien à faire dans le dossier. Je pense que j'arriverai rapidement à une conviction.
Les gendarmes fouillent l'appartement de Tangor, juste au-dessus de son bureau de tabac. Ils y trouvent une pile de 94 exemplaires du livre « Coupable à tout prix ». Et dans son placard, ils tombent sur un polo Lacoste jaune à manches longues et un jean blanc. Ils organisent un tapissage, les deux Américaines le reconnaissent formellement. Ils les croisent dans le couloir en sortant, ils les traitent de menteuses et de salopes. C'est que le soir du viol,
Il a un alibi. Ah oui, il était chez ses parents, à Marseille, pour une fête de famille, un baptême. Les parents produisent même des photos de la fête. Sa mère continue de croire dur comme fer à son innocence.
C'est pas son style du tout, vraiment. Hein.
Comment vous pouvez le décrire, Luc ?
Le brave garçon, trop sensible et trop confiant envers les autres, c'est tout ce qu'il a montré. Il y a une erreur quelque part, on n'arrive pas à savoir. Qui a fait l'erreur ? Je n'en sais rien. Ou ces femmes qui se trompent, je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Mais c'est sûr que Luc ne peut pas, ça je peux vous assurer, si vous le connaîtriez, vous direz la même chose que moi. Tous ceux qui le connaissent peuvent le dire.
Le problème, c'est que sur les photos du baptême, transmises aux gendarmes par sa mère, les photos de la fête de famille qui servent d'alibi, Tangor porte un polo Lacoste jaune à manches longues et un jean blanc. Les photos étaient là pour l'innocenter. Elle l'accuse. Mais ce qui reste le plus troublant dans cette nouvelle affaire, c'est la similitude avec les affaires précédentes. Dans les affaires de 81, après le viol, vous vous souvenez qu'il raccompagnait les filles chez elles ? Eh bien, dans le viol des deux Américaines, à la fin, il leur a donné à chacune un billet de 100 francs pour qu'elles puissent rentrer chez elles. C'est troublant. C'est très troublant. Du côté du comité de soutien, soyons clairs, il y a plus grand monde. Et les soutiens d'hier se cachent en espérant qu'on ne leur fera pas porter la responsabilité de ces deux nouveaux viols. Il n'y a guère que Marguerite Duras qui ne lâche pas Tangor. En novembre 1990, elle lui écrit « Je crois toujours que tu as été victime d'une petite garce qui veut ta défaite coûte que coûte. Si je me trompe aux yeux des gens friands des potins d'assises, je m'en fiche. Tu resteras mon ami. » Quelques mois plus tard, le hasard apporte un coup fatal aux derniers espoirs de Tangor. Les gendarmes apprennent que la famille Tangor a un temps vécu à Nîmes, là où a eu lieu le viol des deux Américaines. Et il rencontre sa petite amie de l'époque, son premier amour, quand il était gamin. Et elle leur montre l'endroit où ils allaient jouer, quand ils étaient enfants. Et cet endroit, c'est une pommeraie, c'est l'endroit où ont été violées les deux Américaines. Quand débute le deuxième procès de Luc Tangor, en février 1992, devant la cour d'assises de Nîmes, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et pourtant, lui, il y croit. Il a rédigé un fascicule de 100 pages pour ses derniers soutiens.
Pour son deuxième procès, Luc Tangor est jugé à huis clos, mais à huis clos partiel puisque les journalistes sont autorisés dans la cour d'assises de Nîmes. Une des jeunes victimes américaines voulait même un huis clos total. Très choquée, elle a fondu en larmes lorsque Luc Tangor est apparu dans le box des accusés. Élégant, dans un costume marron, souriant, détendu, plaisantant avec ses avocats, sûr de lui et de son innocence, il était contre le huis clos. Pour lui, la vérité se fait au grand jour, pas en catimini. Et d'ajouter à propos des deux jeunes filles, je ne sais pas si elles ont été violées, moi j'étais à Marseille, la réalité des viols, c'est pas mon problème.
Pour ce procès, Tangor a enrôlé 5 avocats. Et le résultat est assez contre-productif, ils se marchent sur les pieds et ils se contredisent. Le moment fort, évidemment, le plus accablant, c'est l'audition des deux Américaines.
Mince, blonde, fragile, Carole tient constamment la main de l'interprète. L'autre serre la barre devant laquelle elle explique son voyage avec son amie Jennifer depuis Paris jusqu'à Marseille, où leur agresseur les a prises en stop. Au début, dit-elle, il était très gentil. Mais plus on approche du viol et plus sa voix se fait hésitante. Elle s'interrompt fréquemment avec des sanglots. Il nous a giflés. Je croyais qu'il allait nous tuer. Il avait un regard inquiétant. À cet instant, Luc Tangor, qui ne l'a pas quitté des yeux, la fixe encore plus intensément. Il nous a violés. Ça a duré une éternité. Le président. Et c'est bien lui, Luc Tangor, Carole. Aucun doute, c'est lui. Le président insiste. Vous savez que c'est grave d'envoyer quelqu'un en prison. Carole tape sur la barre. Il n'avait qu'à le savoir avant.
Accablé, Tangor ne lâche rien. Il se bat pied à pied et souvent, ça joue contre lui.
Faute d'un dossier solide, les avocats de Luc Tangor ergotent sur des petits détails. Mardi, c'était l'heure du viol. Hier, l'heure d'un coup de fil de Luc Tangor à sa famille. Cet après-midi, nouvel incident. Le président lit un mémoire qu'il a reçu et selon lequel les deux Américaines ont été violées par des marins américains. Le président explose, déchire le document. Il est inutile que la famille ou les comités de soutien m'envoient ce genre de torchon. Dans la salle, le père de Luc Tangor s'énerve. Le président le fait expulser. Les avocats quittent la cour d'assises. Suspension d'audience, dépôt de conclusion, reprise, nouvelle suspension à ce rythme. Le procès a déjà pris 24 heures de retard, mais reste accablant pour Luc Tangor. Cet après-midi, Jennifer, l'une des jeunes américaines, est revenue à la barre et fixant Luc Tangor dans les yeux. Oui, c'est bien cet homme qui a commis un viol.
Le verdict est sans surprise. Luc Tangor est reconnu coupable des deux viols et il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Et dans son box, il se met à hurler.
Pas de voix ! Pas de voix !
Et il fond en larmes. Quant à ses parents, leurs nerfs lâchent.
Que des mensonges ! Tout le monde est témoin ! Les journalistes sont témoins ! Le président, c'est un assassin !
Le procureur, c'est un monstre ! Pour avoir demandé 20 ans de prison à un innocent. Ce qui est arrivé à Luc, ça peut vous arriver un jour à vous. Croyez-moi, ce n'est pas une justice, c'est une horreur judiciaire. L'avocat général a été un monstre. Et quant à le président de la cour, il a malmené les débats. Les jurés, c'est pas de leur faute. On leur a essayé de les convaincre dans un tissu de mensonges. C'est pour ça, on va demander la cassation.
8 jours plus tard, un peu penaud, l'historien Pierre Vidal-Naquet publie un long texte dans le journal Le Monde. Il présente ses regrets. Luc Tangor est sorti de prison en 2000, après 12 années de détention, et depuis il a refait sa vie et il a eu une petite fille. Mais c'est pas fini, car figurez-vous qu'à l'été 2014, il est à nouveau accusé d'attouchement sexuel sur une petite fille de 12 ans, au Gros du Roi, et dans la foulée de 2 autres. Agression sexuelle. Il nie, bien entendu. Et aujourd'hui, il attend son 3e procès, où il se battra pour démontrer son innocence. N'en doutez pas, c'est un complot, c'est une machination.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.